Vous écoutez, on lit pour vous.
La communauté LGBTQ+, sur le qui-vive. Un texte d'Anne-Marie Provost de l'agence France Presse paru le 14 août 2024 dans Le Devoir. Drapeau, arc-en-ciel brûlé, marche des fiertés perturbées, violence. À l'opposé de l'image de tolérance du Canada, les associations et la communauté LGBTQ+, du pays dénoncent un récent retour en arrière et la résurgence des commentaires haineux et des agressions. Le pays et nombre de ses grandes villes sont considérées depuis des années comme des havres de paix pour vivre librement son identité sexuelle et de genre. Et le Canada est l'un des premiers pays dans le monde à avoir légalisé le mariage homosexuel. Mais comme d'autres endroits du monde, la violence de rue et sur les réseaux sociaux s'est exacerbée ces dernières années, observe Pascal Vaillancourt, directeur d'Interligne, un service d'aide et d'écoute pour la communauté LGBTQ+. Les gens nous appellent et nous racontent des souffrances qu'on entendait de moins en moins, explique-t-il à l'agence France Presse, AFP, évoquant la hausse des insultes et des agressions. Il raconte avoir pour la première fois lui-même été victime de menaces violentes et homophobes récemment avec son conjoint dans les rues de Montréal. Le Canada, qui est pourtant un pionnier de la diversité et de l'inclusion dans le monde, vit un changement important avec un déclin marqué du soutien de la population à la communauté LGBTQ+, confirme Saniam Sethi d'Ipsos Canada. Selon une grande enquête publiée en juin dans une trentaine de pays sur des sujets comme le mariage homosexuel, les signes publics d'affection ou les lois contre la discrimination, le Canada enregistre les baisses parmi les plus importantes sur presque tous les aspects. Ainsi, seuls 49% des Canadiens appuient le fait que les personnes LGBTQ+ parlent ouvertement de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, quand ils étaient 61% en 2021. C'est la baisse la plus forte au monde, avec le Mexique et la Turquie, souligne Saniam Sethi. Polarisation grandissante. Les tensions aux États-Unis autour des enjeux LGBTQ+, déteignent sur le Canada, estiment des associations qui observent une polarisation grandissante qui s'accompagne d'une prise de parole décomplexée. C'est devenu quelque chose avec lequel on peut être pour ou contre, résume Marie Ouzeau, directrice générale du groupe de recherche et d'intervention sociale de Montréal, GRI Montréal. En cause aussi, l'activité en ligne d'influenceurs conservateurs. À force d'entendre les mêmes propos dans une bulle façonnée par les algorithmes, une partie de la population, et notamment des jeunes, se sent légitime à se dire agressivement contre les personnes homosexuelles et transgenres, constate-t-elle. Il y a un climat haineux qui s'installe, alimenté par des politiciens conservateurs qui portent un discours clivant et populiste, renchérit Pascal Vaillancourt, qui sent que les droits de la communauté se fragilisent. Dans certaines provinces canadiennes, l'Alberta, le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan, les gouvernements ont annoncé vouloir durcir les lois concernant les jeunes transgenres en interdisant notamment les chirurgies de transition chez les mineurs. Une politique vivement dénoncée par le premier ministre canadien Justin Trudeau. Radicalisation violente. Le pays reste encore marqué par l'attaque au couteau survenue en 2023 lors d'un cours sur l'identité de genre à l'Université de Waterloo, en Ontario. Un homme avait gravement blessé trois personnes, dont l'enseignante. Entre 2018 et 2023, le nombre de crimes et délits liés à l'orientation sexuelle des victimes au Canada a quadruplé, passant de 186 à 860, d'après les statistiques nationales. Les services de renseignement canadiens ont prévenu dans leur dernier rapport public pour l'année 2023 que des extrémistes contre l'idéologie de genre pourraient commettre des actes de violence extrême à l'encontre de la communauté LGBTQ+. Dans ce climat tendu, le premier ministre canadien a expliqué sur X que son gouvernement s'assure que les organisations de marche des fiertés ont les moyens de protection nécessaires pour que la haine ne nuise pas aux festivités. Dans la vallée de Pembina, une région rurale et conservatrice du Manitoba, dans le centre du pays, une marche des fiertés a notamment été perturbée cet été après des menaces reçues par les organisateurs et les restaurateurs. Dépitée, Pauline Emerson Frobe, présidente de la Pembina Valley Pride, explique à l'AFP: certaines personnes sont contre le fait qu'on parle publiquement de notre orientation sexuelle. Ils nous disent de ne rien dire, de nous taire. C'était la communauté LGBTQ+, sur le qui-vive, un texte d'Anne-Marie Provost de l'agence France Presse paru le 14 août 2024 dans Le Devoir.
Un plombier à vélo? Oui, c'est possible. Un texte de Sarah Champagne, paru le 8 juillet 2024 dans La Presse. Est-ce que je peux avoir une bouteille d'eau? Vélo, riz, plante? Cette question et cette blague, lancée candidement par des citoyens, le plombier de la ville de Montréal, Éric Dion, les entend fréquemment depuis 2 mois lors de ses déplacements. On lui envoie la main, on lui sourit. Impossible de le manquer avec le logo de la ville de Montréal et l'inscription « Service de l'eau » sur la caisse avant. Ce qui fait autant réagir les gens, c'est son nouveau moyen de transport au travail. Il s'agit d'un vélo cargo frontal à assistance électrique. « Il rend le monde de bonne humeur », dit-il. Monsieur Dion roule avec le mastodonte depuis environ 2 mois. « Je suis encore en période de rodage. On ne voit pas la roue en avant. Au début, c'est déstabilisant. Ça prend de la pratique », admet le plombier et cycliste aguerri. Il a donné rendez-vous à La Presse devant l'usine de production d'eau potable Atwater, rue Dupuis, à Verdun, pour expliquer le fonctionnement de son véhicule. Dans le coffre avant, il peut transporter une bonne centaine de kilos. Il y dépose ses outils de plomberie, de lourds compteurs d'eau, un gros seau en plastique et, évidemment, son casque de vélo, son lunch, son sac à dos avec ses vêtements de rechange. Le spécialiste de l'entretien des compteurs d'eau dans les industries, commerces et institutions, ICI, de la ville de Montréal, a eu l'idée du vélo cargo lors de ses voyages en Europe. Il a présenté son projet et des devis à ses gestionnaires qui ont accepté d'en financer l'achat. Le vélo cargo coûte plus de 12 000 $. Ce n'est pas donné, admet-il, mais c'est moins cher que de se déplacer avec le camion de la ville. Le plombier ne perd pas de temps à chercher du stationnement et son transport actif est bon pour sa santé et celle de la planète. Par exemple, lors d'une récente journée de travail, j'ai parcouru 38 km en 2h22 minutes. Juste pour cette journée, mon application d'enregistrement d'activités sportives m'indique que j'ai réalisé une économie de 8,33 kg de CO2, montre-t-il sur l'écran de son portable. Ailleurs, dans les arrondissements de Montréal, des cols bleus adoptent tranquillement le vélo cargo. Surtout en horticulture, pour sillonner jardins communautaires et parcs. Dans Ville-Marie, un préposé à l'entretien et au nettoyage des rues se déplace à vélo cargo. Dans le plateau Mont-Royal, il y a 2 vélos cargo pour les jardiniers. Ils facilitent les déplacements dans les rues étroites. L'arrondissement aimerait en acquérir d'autres, ajoute Geneviève Allard, chargée de communication. Au Québec, dans le cadre du Plan pour une économie verte 2023, les individus et entreprises peuvent obtenir un certain financement à l'achat d'un vélo cargo grâce au programme Éco-camionnage. Et grâce à un projet en collaboration avec la Caisse d'économie solidaire, des bourses allant jusqu'à 2 500 $, sont offertes aux cyclistes chez le fabricant de vélos cargo, Dumoulin Bicyclette. À la mi-juin 2024, 13 bourses avaient été remises. Il n'en reste que 3 à attribuer, a expliqué Pierre-Marie Legrain, copropriétaire de l'entreprise montréalaise. J'espère qu'on aura une 3e saison de ce programme, dit-il. L'engin sur roue n'a plus de secret pour l'expert en bicyclette de tout genre. Il explique que les véhicules à assistance électrique sont assemblés selon les besoins de la clientèle. On a dépassé l'époque du vélo pour livrer la pizza, explique-t-il. Le prix peut varier de 2 000 $ sans le moteur, jusqu'à plus de 12 000 $. Il y a 3 modèles. Le vélo cargo allongé, le triporteur, modèle pratique pour les déplacements avec les enfants, et celui du plombier de Montréal, dit le frontal. Pour chaque cycliste, il y a un vélo. On se dit qu'on change les habitudes de mobilité, un vélo à la fois. Ce n'est pas le Tour de France chez nous. N'importe qui peut rouler avec l'assistance électrique. On a même des forfaits pour la mise au point annuelle. Le gros de notre marché est à Montréal, mais également à Laval, en Montérégie, à Sherbrooke, à Magog. À Drummondville et à Québec aussi, nous informe Pierre-Marie Legrain. Dans un rapport publié en mai 2024, en collaboration avec la chaire Mobilité de Polytechnique Montréal, l'organisme environnemental Équitaire concluait que les bicyclettes à assistance électrique, dont le vélo cargo, ont le potentiel de remplacer jusqu'à 25 % des déplacements qui se font actuellement en voiture dans la grande région de Montréal. Un remplacement de l'automobile par des déplacements combinant le vélo et les transports en commun pourrait générer une économie par ménage pouvant atteindre 7 146 $, toujours selon Équitaire. C'était un plombier à vélo? Oui, c'est possible. Un texte de Sarah Champagne, paru le 8 juillet 2024 dans La Presse.
Aimer la chicane. Un texte de Paul Journet, paru le 18 août 2024 dans La Presse. Les Québécois n'aiment pas la chicane, vraiment? Il y a une part de vérité dans ce cliché, convient Dominique Garand. Mais cela reste réducteur, ajoute le professeur de littérature à l'UQAM. J'ai voulu renverser cette idée reçue. Le « pas de chicane dans ma cabane » s'applique aux conflits privés, explique-t-il. Les débats publics ne souffrent pas de cette gêne. Les exemples abondent dans sa passionnante anthologie du pamphlet et de la polémique au Québec de 1800 à 2000. M. Garand reconnaît une certaine spécificité québécoise. « J'ai vécu en Italie pour le travail. L'expression d'un affect n'y crée pas de lourdeur relationnelle. Chez nous, on accepte mal l'absence de consensus. On tombe vite dans le personnel et le ressentiment », raconte-t-il. Un psychanalyste français lui a déjà fait la remarque suivante. « Vous, les Québécois, vous voulez être aimés. » Les polémistes québécois essaient d'abord de convaincre l'adversaire que leurs protestations sont légitimes. Dans d'autres cultures, s'obstiner est un sport national. Et ce n'est pas entièrement négatif, rapporte M. Garand. Le pacifisme n'est pas une situation normale. Le conflit est inévitable, il doit être affronté et vécu. Mais M. Garand n'est pas sociologue. C'est un écrivain. Il a publié en 2015 « Florence reprise » et un professeur de littérature. Il s'intéresse à un échantillon particulier d'individus, ceux qui alimentent la vie intellectuelle. Au Québec, comme ailleurs, on a toujours eu des individus forts en gueule. Les polémiques ont été constantes et elles ont servi à l'évolution des idées. Parce que c'est en confrontant nos idées que la pensée se développe, explique ce spécialiste du discours conflictuel. Son anthologie n'est évidemment pas exhaustive. N'empêche qu'avec ses 488 pages, elle réussit à parcourir notre histoire intellectuelle tout en offrant le plaisir de goûter à la plume des ferrailleurs de l'écrit. Y défilent plus de 50 personnages aussi variés qu'Arthur Buis, Olivard Asselin, Jules Fournier, Eva Sénécal, Pierre Vadeboncœur et Hélène Pedneau. Malgré leurs différences, ils avaient une chose en commun. Ne pas craindre la chicane. Certains ont marqué l'histoire, d'autres passaient inaperçus, comme Mignonne Ouimette, qui attaque en 1931 l'institution du mariage, une prostitution légale, dans une conférence à l'université ouvrière. J'ai voulu garder une place pour les discours jugés marginaux à leur époque, dit l'auteur, car, même dans l'ombre, ils ont fait avancer la réflexion. Il y a le polémiste et, à son opposé, le pamphlétaire. Le polémiste ne craint pas l'agressivité. Il y recourt toutefois dans le but de dénoncer des injustices. Pour cela, il amorce un dialogue et attend une réponse. Il espère que le débat aide à changer les choses. Le pamphlétaire a moins d'attente, explique M. Garand. Dominique Garand, écrivain et professeur de littérature à l'UQAM, explique. Le pamphlétaire fonctionne par saute d'humeur sans forcément engager de dialogue avec l'adversaire. Peu importe qu'il convainque, son principal souci est de clamer sa vérité. Il définit son univers à rebours de la société et il cherche à le faire avec style et panache, jusqu'à en faire une fin en soi. Une fois ce geste accompli, il se sent bien. C'est un personnage séduisant, mais qui peut être dangereux. Bien sûr, ces catégories fonctionnent comme des pôles. Plusieurs se situent entre les deux. On pourrait ajouter deux éléments à ces remarques. Sans culture et sans style, ce discours perd de son intérêt. Il ne sera plus qu'un égo qui se pavane, qui s'insurge ou qui se lamente. Et son utilité dépend de son statut. Le pamphlet et la polémique devraient idéalement compléter le débat posé et rationnel. Il le complète pour enrichir la vie intellectuelle, mais s'il ne reste personne pour informer et alimenter une discussion constructive, la démocratie deviendra compliquée. L'anthologie publie les répliques et parfois les répliques aux répliques et précède ses extraits de mise en contexte pour enrichir la lecture. Vous écoutez « Aimer la chicane », un texte de Paul Journet, paru le 18 août 2024 dans La Presse. Jusqu'aux années 1970, le polémiste était le plus souvent un autodidacte lettré. Mais avec la Révolution tranquille, le nombre d'universitaires spécialistes a bondi. Ces deux univers entrent depuis en collision. M. Garand donne l'exemple de l'affrontement entre notre ancien collègue Pierre Folliat et Jean Larose, essayiste et ex-professeur à l'Université de Montréal. À première vue, cela ressemble à un combat de coq. Mais il s'agit de deux univers sociaux qui entrent en collision. Ils n'avaient pas la même tribune, ne visaient pas le même public et ne jouissaient pas du même pouvoir symbolique, résume M. Garand. En voici un extrait. Folliat contre Larose en deux temps. Jean Larose contre Pierre Folliat. Extrait du recueil « La souveraineté rampante boréale 1994 ». Citation. Au fil des ans, Pierre Folliat est devenu la voix du bon sens, l'ombudsman de ses idées flottantes dans l'esprit du temps, idées immanquablement reconnaissables à cette caractéristique qu'elles sont d'autant plus fières qu'elles sont petites et bêtes. Fin de citation. Pierre Folliat réplique à Jean Larose le 24 novembre 1994. Citation. « Voyez un peu qui me prête des délires de rockstar. Jean Larose, le grand prêtre des intellectuels québécois lui-même, le gourou, qu'une intellocratie de province ne se lasse pas de regarder tortiller du cul jusqu'au dépôt de son petit caca songé biannuel. » Fin de citation. En interview, M. Garand commente quelques procédés. Outre le coup de gueule, l'invective et la moquerie, certains se démarquent par l'originalité de leur charge. Ils mentionnent entre autres Karl Dubuc, un grand satiriste et adepte de l'antiphrase. Ils mettent en scène un personnage, puis le laissent parler et se rendre ridicule. Il y a aussi Jacques Ferron. Son approche était oblique, analyse M. Garand. Il pouvait recourir aux fables pour construire le personnage de son adversaire. Il l'a fait dans ses portraits charges de Pierre-Éliott Trudeau, son ancien camarade au collège Jean de Brébeuf. Après la crise d'octobre, Ferron sera impitoyable. Il l'assimile au prince de Machiavel, avant de préciser qu'il s'agit habituellement d'un nom de cheval. Il qualifie le chef libéral de playboy, qui ment sur son âge et descend sur le terrain à la Coupe Grey, déguisé en Zorro, avec un chapeau haute forme et une cape. Il se demande ce qui se cache derrière la superbe du premier ministre. Voici un extrait de sa réponse. Citation. Il y a un écolier appliqué qui prenait des notes de tout ce que ses professeurs disaient, même les plus stupides. Un bûcheur qui parvenait ainsi à être premier de classe, quitte ensuite à prétendre qu'il réussissait avec aisance. Il y a un fils de famille qui n'a jamais été obligé de gagner son sel et qui, au-dessus des difficultés de la vie, avait décidé dès le collège de devenir premier ministre du Canada. Il y a le décalage entre le pragmatisme de son père, coulissier de la bourse, spéculateur, et l'idéalisme des jésuites. Il y a le fait que ce bûcheur, cet ambitieux, ce pseudo-intellectuel devenu héritier d'une belle fortune, a choisi la mauvaise part du capitalisme, celle du capitalisme rentier, parasitaire, qui ne crée à rien. Fin de citation. Voici quelques autres extraits de l'anthologie. L'esprit libre, Louis Fréchette. Esprit fougueux, il combat les conservateurs et les ultramontains, même durant son exil à Chicago. Un des conflits porte sur Sarah Bernhardt, dont il était un admirateur. Les autorités ecclésiastiques avaient dénoncé la venue de cette grande actrice française. Elle avait eu un enfant hors mariage, elle était juive et elle pratiquait un art jugé immoral. Fréchette l'accueille avec un poème, raconte M. Garand. Fréchette est direct et moqueur. Tout en défendant des idéaux, il s'amuse, comme le prouve cette charge contre le révérend Lacasse, qui critiquait sa poésie et son libertinage dans la patrie, 30 décembre 1893. Citation. Il n'y a rien dans le pamphlet du détraqué révérend Père Lacasse qui justifie, qui explique même le moindre mécontentement chez les victimes de ces outrages. Que voulez-vous? Le saint homme ne peut pas écrire autrement, c'est dans sa nature. Mais une bête puante aussi ne peut pas faire autrement. C'est dans sa nature de puer. Est-ce que ça l'empêche d'être une bête puante pour tout ça? Et son odeur seule ne justifie-t-elle pas d'assommer la bête à coups de bâton quand elle s'approche trop près de nous? Fin de citation. La féministe Eva Circé-Côté. Cette journaliste, écrivaine et bibliothécaire, milite pour la cause des femmes et combat les inégalités sociales. C'est une polémiste. Elle engage un combat en ayant pour objectif de provoquer des changements. Loin de miser sur la provocation, son polémisme repose sur les faits et les arguments rationnels. Penseuse républicaine, elle a défendu Papineau et la laïcité. Dès la création du Devoir, elle attaque le nationalisme clérical de son fondateur, Henri Bourassa, qui était par ailleurs le petit-fils de Papineau. Notez sa signature. Elle a dû se résigner à utiliser un pseudonyme masculin. Jean Ney, pseudonyme d'Eva Circé-Côté, écrit dans Le Devoir du 15 janvier 1910 « Décidément, Le Devoir est un journal macabre. Le titre lui-même semble avoir été fabriqué avec du bois de cercueil. Bourassa, à la tête du cortège, à cheval sur ses grands mots d'honneur, d'honnêteté, le visage long comme ça, ressemble à un Suisse quelconque qui dirige les funérailles du Parti nationaliste. C'est ce qu'on appelle un organe du progrès. Allons donc. on ne soulève pas les masses avec des diets cirés. Le critique, Victor Barbeau, alias Turc. Les monuments de notre culture n'ont pas été épargnés à leur époque par les critiques cinglantes. Félix Leclerc a commencé sa carrière à la radio, puis à l'écriture de scénarios, avant de publier des livres et de chanter. Il était jugé pour sa langue populaire. Parmi ses bourreaux, Victor Barbeau, chroniqueur à la presse sous le pseudonyme Turc, est cofondateur de la Société des écrivains canadiens qui se démarque ici par son traditionnalisme. Victor Barbeau écrit sur Félix Leclerc, Liaison, octobre 1949. Chantant comme il écrit, par râle, par gargouillement et par rot. Écrivant comme il chante, en feinte, en simulacre et en simili, Félix Leclerc poursuit à la scène, sur les ondes et dans les cabinets de lecture paroissiaux, une fructueuse carrière industrielle. Tout lui est matière à pommade, lotion, fleurs de papier, essence synthétique, glucose et lumignon. C'est le conformisme lustré à la vaseline, la niaiserie montée en papillote, la platitude découpée en caramel. Félix Leclerc n'invente pas, ne crée pas. Il salive, il transpire. Le patriote, Pierre Falardeau. Il brouille les catégories entre le polémiste et le pamphlétaire. Le temps des bouffons, court documentaire, dénonce la richesse vulgaire et le pouvoir obscène d'une caste ridiculement satisfaite d'elle-même. Son brûlot est sans appel. Il l'a autoproduit et en vendait les VHS lui-même. Aucune réponse n'est attendue, aucun dialogue n'est possible. Mais son auteur reste un idéaliste engagé dans une cause, l'indépendance de son peuple. Pierre Falardeau écrivait dans Le temps des bouffons en 1993. Je les ai vus à Montréal, dans leurs bureaux, avec leurs sales yeux de bosse, leurs sales voix de bosse, leurs sales faces de bosse, hautains, méprisants, arrogants, décrottés, avec leurs chemises blanches puis leur aquavelva. Minables avec leurs Mercedes puis leurs raquettes de tennis ridicules, comme des rats morts, gras et épais avec leurs farces plates puis leurs parties de cabane à sucre. Plein de marde jusqu'au bord à force de bêtises et de prétentions. Crosseurs, menteurs, voleurs. Et ça se reproduit de père en fils. Une honte pour l'humanité. C'était Aimer la chicane, un texte de Paul Journet, paru le 18 août 2024 dans La Presse.